Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux. Grande Fleur Café. Hugues Robert.
Bienvenue au Grande Fleur Café. Comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, on est très heureux d'accueillir maintenant, dans le début de notre cycle sur l'édition, l'édition contemporaine en France et ailleurs peut-être, David Meulemans, donc des éditions aux Forges de Vulcain, avec qui on va s'entretenir pendant une quarantaine de minutes, de sa maison, de sa conception du métier de l'édition, de ses coups de cœur, de ses regrets peut-être, qui sait, et en tout cas, comme on vous l'avait proposé, de vous donner peu à peu à voir au fil des semaines différentes facettes, différentes sensibilités, différentes façons d'aborder en fait ce métier qui fait un peu rêver, qui parfois peut désespérer aussi. Peut-être que David se laissera aller à quelques confidences en disant qu'il y a des moments un peu plus durs que d'autres. Mais en tout cas, voilà ce métier qui fascine, qui est l'objet de beaucoup de mythes, beaucoup de choses, enfin voilà, qui sont pas si connues qu'elles pourraient ou qu'elles devraient l'être. Et donc, avec David, on va en commencer à en découvrir certaines arcanes. Donc, bonsoir David.
Bonsoir.
Pour commencer, est-ce que tu nous dirais un petit peu d'où sont nés en fait aux Forges de Vulcain, et tu nous diras certainement pourquoi ce nom, qui est quand même un des noms les plus spectaculaires de l'édition française contemporaine.
C'est très gentil. Alors c'est une maison d'édition que j'ai créée avec des amis en 2010. En fait, pendant 2-3 ans avant, on a testé sous un format associatif la maison, parce qu'on n'était pas issus des métiers de l'édition, donc on avait des lacunes professionnelles. Après, on était tous enseignants-chercheurs, et donc on avait tous déjà contribué à des livres pour les éditeurs. On était tous passés par la même troupe de théâtre de création, donc on était intéressés à la fois par la fiction et la non-fiction. La fiction comme loisir, la non-fiction professionnellement. Et il s'est passé au même moment deux choses. C'est côté non-fiction, on était parfois frustrés par nos échanges avec les éditeurs, parce que parfois les éditeurs universitaires ou académiques nous imposaient des contraintes qu'on ne comprenait pas. Et il y avait un défaut de pédagogie de leur part, mais je pense un défaut de curiosité de notre part pour comprendre comment ils faisaient leur métier, quelles étaient eux leurs contraintes. C'était, on avait un peu tendance à croire quand on était enseignants et chercheurs que les éditeurs étaient à notre service, alors qu'il faut plutôt penser sous la forme du partenariat équitable, voilà, ou équilibré. Et la deuxième, donc on était frustrés du côté de la non-fiction, et du côté de la fiction, on était frustrés aussi parce que on était tous dans cette troupe de théâtre depuis l'âge de 18 ans, et on arrivait vers les 30 ans, et on se rendait compte que le développement de nos vies professionnelles et vies familiales n'était plus compatible avec une activité théâtrale intense, parce qu'on n'était pas des professionnels, et on n'avait pas envie d'évoluer vers un théâtre amateur un peu de seconde zone. Voilà, ça a l'air très méchant comme ça, mais c'est le sujet d'une autre émission, mais le théâtre amateur en France, c'est pas le théâtre amateur en Allemagne ou en Angleterre, où c'est plus reconnu, plus aidé, voilà. Et donc, créer une maison d'édition qui publierait de la fiction et de la non-fiction, c'est devenu en fait le bon moyen de résoudre ces deux problèmes qu'on avait. Donc on a créé ce qu'on appelle une maison généraliste. Donc aux Forges de Vulcain, publie des romans et des essais. J'ai été le seul en fait à basculer à plein temps sur cette activité, que je fais donc depuis 2010. On a publié 102 livres. Maintenant, on publie principalement de la fiction, donc des romans français et étrangers, contemporains et patrimoniaux. Sur les dernières années, les choses se sont un peu accélérées, donc on fait vraiment beaucoup plus de fiction, et on est pas mal centré quand même sur la création française contemporaine, sachant que bizarrement, je crois que c'est la première fois que j'emploie ce terme création française contemporaine, parce que d'un point de vue dénotatif, c'est bien ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est bien ça qu'on fait. D'un point de vue connotatif, c'est-à-dire ce qu'on entend derrière, c'est pas trop ça qu'on fait, parce qu'on est une maison plutôt grand public. Et tout à l'heure, je parlais des origines un peu théâtrales des Forges de Vulcain. On reste près d'un d'un héritage très à la Jean Vilar, c'est-à-dire l'élite pour tous, le théâtre pour tous. Alors, l'élite pour tous, ce n'est pas une expression de Jean Vilar, c'est postérieur. Mais vraiment cette idée qu'il faut faire des romans qui s'adressent à tout le monde, mais avec une certaine forme d'exigence, de manière à ce qu'on se retrouve tous entraînés vers le plus beau, plus haut, plus fort, et voilà.
Tu sais que cette expression parle particulièrement à mon cœur, à titre personnel, puisque nous faisons notre librairie Caribe, qui est maintenant à 30 mètres de ce studio, donc depuis cette semaine, à l'intérieur de Ground Control. On avait adopté très vite comme slogan informel la notion d'élitisme de masse, effectivement, qui est un de ces oxymores, mais riches, et qui font réellement avancer les choses, à mon avis, qui est dire oui, c'est des fausses oppositions, ça. Enfin, donc c'est exactement
oui,
ce que tu dis. Enfin.
C'était une discussion qu'on avait entre nous. Alors, on doit beaucoup à ces troupes de théâtre, donc le Tiers Théâtre qui existe encore, fondé par Camille Combe-Lafitte, dont les références c'était le Théâtre du Soleil et Jean Vilar, Vitesse, voilà. Les Déchéants aussi, d'une certaine façon. On se rendait compte qu'en plus, même d'un point de vue universitaire, on avait des lectures théoriques qui allaient dans le même sens, c'est-à-dire avec des auteurs comme Christopher Lasch ou ce type de choses. Donc c'est un peu ça l'origine de la maison en termes, spirituel, pas au sens religieux, mais où j'aime pas. Enfin, le vrai mot c'est idéologique, mais idéologique, là aussi, c'est un terme qui crispe un peu les gens. Donc, voilà. Et ça donne une impression trompeuse. C'est la grosse difficulté des forges de Vulcain, c'est que j'ai tendance, moi, à vendre les forges de manière très cérébrale, alors que c'est plutôt des livres, j'espère, enfin, j'ai l'impression, assez divertissants. Et si ça s'est appelé les forges de Vulcain, c'est que moi, je suis pas très adepte des. De donner son propre nom à une entreprise, d'une part parce que je crois qu'un nom c'est quelque chose, un nom propre c'est quelque chose d'important. L'histoire récente de l'économie française a montré que c'est dangereux de donner son nom à son entreprise parce que quand on la revend, on revend un droit d'usage de son nom. Donc mon nom n'a pas une grande valeur, mais je préfère le garder. Voilà.
C'est le mien.
Voilà, c'est ça. Donc rechercher quelque chose qui avait un peu de souffle. C'était pas une manière de dire qu'on allait faire des grandes choses, mais qu'au moins on allait essayer. Donc on voulait un truc un peu mythologique. Et on cherchait. Au détour d'un dictionnaire de la mythologie, je me suis rendu compte d'une caractéristique qu'on ne voit pas généralement de Vulcain, du dieu Vulcain, c'est que tous les dieux, tous sans exception, sont beaux, sauf Vulcain, qui est donc l'exception.
Sauf Héphaïstos, ouais.
Voilà, qui est moche, qui est handicapé en plus, qui boite, et qui est présenté parfois comme sale et velu, ce qui n'est pas terrible pour un dieu. Là, je ne suis pas en train de bien vendre la chose. Mais l'idée, c'est de dire que, certes, il est un peu à part, mais tous les dieux ont comme outil de leur puissance quelque chose que lui a construit pour eux. Et donc, c'est celui qui est méprisé, qui régulièrement, il y a des moments où il se fait tabasser par les autres à l'Olympe. Et voilà, c'est un peu le souffre-douleur de la famille. Mais fondamentalement, c'est lui qui donne aux autres les moyens de leur puissance. Et c'était important parce que pour moi, c'est une bonne allégorie du livre, parce que le livre en général, c'est quelque chose de petit, de précieux, de discret, de fragile. Et pourtant, c'est extrêmement puissant parce que ça structure le monde. Et moi, je suis toujours étonné quand parfois je fais des conférences ou des rencontres, on va rencontrer des gens qui ont 30, 40, 50, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont plein de responsabilités, et voilà. Et on se rend compte que des choses qui structurent leur esprit, qui reviennent toujours dans leur esprit, c'est des lectures qu'ils ont fait à 12 ans, 13 ans, 14 ans, et voilà. Et même moi, quand. Comme tout bon lecteur, j'ai beaucoup lu, mais je me rends compte que je reviens souvent à des lectures qui m'ont structuré, avec cette idée que les lectures qu'on fait avant 20 ans nous structurent, et celles qu'on fait après, même si on les aime, elles viennent juste s'amonceler dessus. C'est-à-dire qu'elles viennent s'insérer dans une vision du monde, une structure du monde qui a été déjà solidifiée ou sédimentée à ce moment-là. Et donc voilà, Vulcain, très bonne allégorie du travail. Voilà.
Mais c'est vrai que moi, ce nom m'avait beaucoup séduit dans ces deux dimensions, c'est-à-dire par les caractéristiques de Vulcain, mais également effectivement par les connotations possibles de la forge. Et j'avais beaucoup aimé notamment le fait que, alors, sans du tout, en ce qui me concerne, rejeter le pur divertissement en tant que tel, mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé. Et à chaque fois qu'un livre, de facto, se fait renvoyer en fait dans la case du pur divertissement, je trouve ça triste et dommage, et éventuellement c'est donc il y a une notion d'inutilité, mais pas d'inutilité au sens de l'efficacité capitaliste, mais au sens justement un peu plus personnel et métaphysique peut-être presque. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'idée, puisque pour moi dans ce qui fait un livre, il y a une composante très forte d'outils, il y a une composante très forte d'armes. Et donc, c'est des choses qu'on forge, les outils et les armes. Et, donc c'est...
et puis, il y a cette idée aussi qui n'est pas évidente pour tout le monde, c'est de dire que la vision du monde ou la moralité au sens général, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement structuré uniquement par les lectures d'essais et qui peut très souvent être structuré par la lecture des romans. Et moi, c'est certains romans qui m'ont appris... le courage, l'amitié, la loyauté, ce type de choses. Et voilà. Alors après, c'est comment on fait ça sans... Enfin, là encore, je me rends compte que disant ça, ça donne l'impression qu'on est en train de créer un nouveau réalisme soviétique. Donc, c'est pas du tout ce type de littérature.
Voilà. On parlera tout à l'heure de plusieurs exemples. Oui. Mais non, je pense que le risque est mince quand même de confondre Aux Forges du Vulcain avec les éditions sociales de 1934. Mais justement, de façon parfaitement corrélée à ce que tu dis, et je pense que c'est sans hasard, parmi les premiers textes, dans ma mémoire en tout cas, défendus par les Forges, on trouve deux écrivains qui sont eux-mêmes des hybrides, c'est-à-dire que ce sont à la fois des penseurs et des idéologues, cette fois en assumant le terme, mais également des romanciers, et qui ont su naviguer entre les formes. Et je pense donc à Bellamy et à Maurice, qui sont justement, alors tous les deux d'ailleurs, enfin des... une forme d'utopiste, mais au sens justement 20e siècle de ça, même s'ils écrivent tout au tout début du siècle. Et donc, je me demandais, voilà, quel a été un peu leur rôle à tous les deux, et sachant que je crois que mon Maurice a beaucoup plus d'importance pour les Forges que Bellamy, alors, mais ils ont un rôle un peu... j'ai trouvé fort dans la montée en puissance des Forges.
Oui, parce que en fait, c'est donc des auteurs qui avaient été peu ou pas traduits. Alors, Bellamy, c'est pas tout à fait vrai, parce que Un regard en arrière, qui est son grand roman, mais c'est pas sa seule œuvre, mais c'est sa seule qui est traduite, a été traduite 11 fois. Donc nous, notre traduction était la 11e, mais c'était la seule qui était intégrale. Puisque c'est vrai que depuis les années 80, en France, il y a eu une évolution des pratiques de traduction qui vont vers du texte intégral, des meilleures traductions. Donc en fait, il n'avait pas bénéficié de ce travail-là. Maurice, à l'inverse, son œuvre de fiction était quasiment... intégralement inédite, sauf Les Nouvelles de Nulle Part, qui avait été traduite dès 1908, je crois, en France. Les deux auteurs, alors, c'est du patrimonial, mais mon usage du patrimonial, c'était pas on va vous faire découvrir un vieux bibelot, c'est de dire que ce qu'ils avaient à dire avait encore une justesse, une vérité, et j'ai même tendance à penser que, du moins dans le cas de Maurice, il y a une forme de retour à Maurice depuis quelques années. Alors on le voit de manière extrêmement paradoxale, par exemple, H&M a une collection William Morris maintenant, donc alors ils ont pris l'apparence de William Morris, mais non pas l'âme, puisque William Morris, c'était le retour à l'artisanat par détestation de la vie industrielle. Et effectivement, H&M, c'est la vie industrielle, c'est aussi l'exploitation ouvrière. Enfin, voilà. Mais Morris m'intéressait aussi comme modèle à donner. C'est-à-dire, c'est une manière de dire à des auteurs contemporains, soyez ambitieux parce que... d'autres femmes et d'autres hommes avant vous ont été ambitieux, et c'était pas plus facile pour eux à leur époque, c'était même beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire c'est plus compliqué d'écrire, beaucoup plus compliqué de publier, et voilà. Donc si Maurice était capable d'être penseur, designer, entrepreneur, marchand, romancier, poète, traducteur, et on peut le faire. S'il a essayé d'écrire des immenses romans qui sont à la fois des beaux romans d'aventure avec un sens visuel étonnant et aussi un moyen de formuler concrètement des idées, on doit pouvoir le faire. C'est une sorte de... C'est donner des modèles. Alors, Bellamy, c'est différent. Bellamy et Maurice sont à peu près des contemporains. Leur grande période d'écriture, c'est 1840. 1885-1895. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils se détestaient, puisqu'ils ont eu, en fait, tous les deux, selon les critères actuels, on dirait que c'est des gauchistes, mais Maurice est un communiste libertaire d'une certaine façon. Il y a des aspects un peu anarcho-écolo chez lui. Par contre, Bellamy est favorable à une forme de communisme autoritaire, très planificateur, très organisé. Voilà, puisque son grand roman, qui est donc le troisième roman le plus vendu sur le sol américain au 19e siècle. Non, troisième livre. Deuxième roman, mais troisième livre. Premier livre, la Bible. Deuxième livre, La Caisse de l'Oncle Tom. Troisième livre, Un regard en arrière d'Edward Bellamy. C'est un jeune américain qui s'endort, se retrouve en l'an 2000. Et décrit le monde de l'an 2000. Donc il y a déjà un endroit où on appuie sur un bouton et un petit tube vous apporte les meilleurs concerts de musique du monde entier. C'est assez génial d'avoir écrit ça en 1890. Voilà. Bon, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est un peu du Jules Verne avec un aspect plus politique que Jules Verne. Et en fait, ils ont eu un échange de courrier un peu acrimonieux dans la presse britannique. Dans le Pall Mall Gazette, je crois, mais c'est à vérifier. Donc, je le mettrai sur la page Facebook des Forges une fois que j'aurai vérifié ce soir. C'est de mémoire. Et en fait, c'est marrant, c'est une sorte de critique classique, de tension classique entre les différentes gauches. C'est Bellamy qui considérait que le projet politique de Maurice n'était pas un projet révolutionnaire, c'était un projet en fait complètement lénifiant, pacifiste et qui ne mènerait à rien. C'était des rêves d'hommes des métiers du luxe. Et Maurice, qui à l'inverse pensait que Bellamy oubliait que la seule vraie valeur qui lie les hommes, c'est l'amitié qui se porte les uns envers les autres, et que un système politique autoritaire détruisait complètement la seule valeur morale des individus. Voilà. Donc c'est vrai que par tempérament, je suis plus mauricien que fan de Bellamy, mais Bellamy a quelque chose de fascinant. Alors c'est que alors je suis plus mauricien, mais chez Bellamy, il y a une fascination pour la technologie que je trouve stimulante. Après, je peux parler des heures de ces auteurs-là, mais Maurice, très rapidement, Maurice n'est pas du tout ce qu'on appelle un ludite, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre l'industrialisation. C'est simplement quelqu'un qui veut éviter que l'industrialisation détruise les vies, les emplois et l'art, et la beauté. Voilà. Donc en fait, il réfléchit sur comment on industrialise les choses de manière à ne pas détruire l'artisanat, l'emploi et des connaissances. Alors par exemple, c'est vraiment Maurice qui a œuvré massivement au développement du papier peint en Angleterre. Et encore aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'appelle William Morris & Co. qui publie, qui imprime des papiers peints William Morris, donc dessinés par William Morris, avec cette idée que le papier peint avait cette caractéristique d'apporter de la beauté dans tous les appartements et d'être beaucoup moins cher que d'acheter un tableau original. Donc c'était un moyen de lier une forme d'artisanat dans le dessin avec une forme d'industrialisation dans la reproduction du papier textile. Il y a ça. Et ces jours-ci, là où Maurice peut vraiment parler à l'époque contemporaine, et ça permet peut-être de revenir peut-être plus sur l'édition aujourd'hui, c'est que en fait, le développement du 19e siècle, c'est une tentative d'industrialisation de l'artisanat, c'est-à-dire on prend un objet artisanal et on voit comment on peut le répliquer, et dès qu'on peut le fabriquer à la chaîne, il y a quand même des caractéristiques qui disparaissent. Il y a eu au XXe siècle des tentatives de retour de l'artisanat, et depuis 20 ans, les nouvelles technologies font voir, ce qui est peut-être simplement un mirage ou peut-être un espoir, une forme d'artisanalisation de l'industrie. Et d'une certaine façon, l'effervescence qu'il y a dans l'édition française, et je dis vraiment française, pas francophone, enfin francophone au sens Belgique, Suisse, France, parce que les autres pays en profitent moins, c'est qu'on peut créer des maisons d'édition qui ont une dimension industrialisée, avec un coût d'entrée assez faible, avec peu de moyens, peu de personnes, et arriver à des résultats qui touchent un grand nombre. Donc ça, je pense que c'était quand même très compliqué il y a 20, 30 ans, 40 ans. Et ça, c'est propre à l'édition, mais dans d'autres secteurs d'activité, on sent que potentiellement, certaines nouvelles technologies peuvent permettre à des artisans de faire renaître leur artisanat.
Alors, je suis bien d'accord avec toi, on pourrait aisément parler de Bellamy et de Maurice toute la soirée et au-delà, d'autant plus que j'abonde totalement dans ton sens, c'est que deux penseurs, auteurs, donc multifacettes, multi-touches, qui écrivent au tournant en fait, du 19e et du 20e siècle, enfin juste avant la fin du 19e siècle, et qui sont d'une très étonnante actualité, donc qui inspire des romanciers contemporains, qui inspire des penseurs contemporains, avec ce côté effectivement qu'il y a dans patrimoine, il y a bien des choses et il y a du patrimoine qui est tout à fait vivant, tout à fait actuel. Et c'est un vrai mérite et une vraie intelligence de la part d'éditeurs justement d'aller travailler au corps en fait ce patrimoine-là. On va poursuivre en revanche sur effectivement qu'est-ce qui caractérise une maison d'édition aujourd'hui, comme tu le disais. Avant ça, on va faire une petite pause musicale avec un thème évidemment de Dieu du Feu en l'honneur des Forges du Vulcain et on va écouter Manowar. Voilà, et après cet intermède métallique en l'honneur de Vulcain et de son côté forgeron indéniable, on revient donc aux Forges de Vulcain avec David Meulemans et on poursuit notre discussion à propos d'éditions contemporaines. Donc, David, tu disais qu'effectivement, une des choses qui a changé ces dernières années, enfin, en France en tout cas, et dans les pays francophones proches, européens, c'est dans les outils, dans les caractéristiques en fait, du métier, il est probablement plus facile qu'il y a une quinzaine d'années de démarrer en fait, et de se lancer dans des conditions professionnelles, mais avec en fait, des mises de fonds et des... qui sont sans commune mesure aujourd'hui avec ce qui était encore le cas il y a une quinzaine d'années. Mmh. Donc, est-ce que c'est principalement pour des questions de technologie ou est-ce qu'il y a aussi une question de microcosme et d'écosystème qui a aussi un peu muté ?
Alors, non, parce que je pense que la France a globalement un bon écosystème du livre qui est lié au fait que depuis 1981, tout est structuré autour du prix unique du livre qui permet d'avoir beaucoup de points de vente du livre, sans doute le meilleur tissu au monde de points de vente. Ça permet aux petites structures de résister aux grosses structures et donc d'avoir une offre très variée, de toucher une très grande partie de la population et donc de vendre beaucoup de livres tout simplement, mais en plus avec une certaine variété de l'offre. Donc ça, c'est depuis 1981. L'évolution plus récente, c'est qu'il y a eu d'abord les frais d'impression qui sont qui ont baissé. Alors, je pense qu'au début, ils ont quand même baissé avec... on a eu tendance à imprimer de plus en plus loin de la France, même s'il y a un mouvement actuellement de faire revenir
des relocalisation.
De relocalisation qui sont liés au fait que bah, petit à petit, les transports, c'est polluant et ça coûte cher. Il y a des pays qui deviennent un peu plus... C'est un peu plus délicat d'imprimer chez eux. Donc, petit à petit, certains éditeurs reviennent en France. Nous, on imprime en France. J'aimerais dire que c'est uniquement pour des raisons idéologiques. C'est aussi pour des raisons très pratiques. C'est quand on imprime en France, on peut être livré en 4-5 jours. Si on imprime en Chine, c'est quand même beaucoup plus long. Hein. C'est, là, 4-5 jours, ce n'est pas possible. Donc, c'est... Il y a eu d'abord la baisse des coûts d'impression, il y a eu la numérisation, la bureautique fin des années 90, début des années 2000. Après, je pense que les évolutions assez récentes, il y a aussi le développement du commerce en ligne qui a permis, en fait, parce qu'auparavant, soit vous vendiez en librairie, ou par correspondance. Mais le fait d'avoir pu créer pour beaucoup de maisons d'édition juste un site web où elles commencent à vendre, c'était déjà un petit quelque chose embryonnaire. Il y a eu le livre numérique qui a permis à certaines maisons de diffuser des œuvres. Alors, économiquement, ce n'était pas très viable, enfin, sauf cas précis, mais c'était aussi un outil. Et là, on parle de 2008-2014. Plus récemment, il y a l'impression à la demande, qui techniquement existe en France depuis 2009-2010, mais surtout depuis 3-4 ans. L'impression à la demande, c'est la notion classique dans l'édition, c'est un éditeur imprime un stock de quelques centaines à quelques milliers, à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, et il les place en librairie. L'impression, ça c'est le fonctionnement classique. L'impression à la demande, c'est vous rentrez dans votre librairie, vous voulez un livre qui n'est pas là, le libraire en passe commande, et un exemplaire unique est imprimé pour vous. Donc ça limite le stockage, ça limite l'investissement financier initial de l'éditeur, parce qu'en fait, c'est vous, en tant que lecteur ou lectrice, qui payez cet exemplaire d'avance. Donc, en fait, il n'y a pas d'avance de trésorerie. Et, voilà. Donc ça, c'est un autre aspect qui modifie un peu, le ticket d'entrée. Après, il y a aussi des choses assez négatives avec la baisse du ticket d'entrée. C'est... l'augmentation de l'offre, l'explosion de l'offre, qui est une explosion à la fois du nombre de références nouvelles annuelles, donc qui a presque doublé en 20 ans, c'est-à-dire on passe de 38 000 titres, je crois, autour de 2000, à en 2020, on passera peut-être la barre des 100 000 nouvelles références annuelles. Alors c'est trompeur parce qu'il y a beaucoup de références qui vont s'écouler à 15 exemplaires, hein, donc c'est pas, elles ne vont pas toutes augmenter, mais globalement quand même, les ventes moyennes dans l'édition ont beaucoup baissé sur les 20 dernières années, ce qui a posé des problèmes de rentabilité économique pour les maisons d'édition qui sont antérieures, c'est-à-dire qui se sont structurées sur des modèles économiques précédents. C'est-à-dire, en fait, la plupart des maisons d'édition qui sont créées sur les 10 dernières années à faible capital, c'est des maisons d'édition où, en fait, en termes de salariés, il y a une ou deux personnes, même si ça fait vivre beaucoup de personnes. Et puis, il y a d'autres évolutions, par exemple, à partir de 2009, je crois, le statut d'auto-entrepreneur, ça a certes permis à des gens qui auparavant faisaient des choses de manière pas tout à fait légale de rentrer dans une forme de légalité, mais le problème, c'est que ça a entraîné l'externalisation de beaucoup de missions dans l'édition, le morcellement du travail éditorial, et donc voilà, il y a beaucoup de maisons d'édition qui n'ont plus de correcteurs en interne. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait plutôt dire qu'il n'y a plus beaucoup de maisons d'édition qui ont en interne
encore des correcteurs,
salariés. Ce n'est pas dire que les livres ne sont pas corrigés. Les livres sont corrigés par des prestataires externes qui sont des indépendants qui se louent de manière plus ou moins régulière aux mêmes maisons, mais à plusieurs maisons, parce que c'est aussi une des contraintes du statut d'auto-entrepreneur, c'est qu'on doit avoir plusieurs clients.
Oui, sinon, on voit le salaire déguisé.
Voilà, c'est ça. Mais dans l'édition, je pense que beaucoup, on joue un peu avec la limite pour savoir si vraiment ce n'était pas possible de licencier tout le monde et de reprendre tout le monde en mode auto-entrepreneur. Voilà, ce n'est pas possible. Je rassure les gens, c'est pas possible. Ou je les inquiète pour certains, peut-être. Mais voilà, tous ces éléments ont fait que le métier a sans doute changé. Après, je pense que ça, c'est pour créer des maisons d'édition. Après, pour arriver à l'équilibre financier qui permet de continuer à exister, se développer, vendre un peu plus, pas juste se faire plaisir, mais aussi faire plaisir à des lecteurs de plus en plus nombreux, on revient à des solutions assez classiques, c'est-à-dire être très concentré sur l'éditorial, être très concentré sur le travail avec les libraires, qui est souvent un travail très concret, de les rencontrer physiquement de temps en temps, ce qui est compliqué parce que, d'une part, les libraires sont très nombreux, ils sont répartis sur tout le territoire, donc les rencontrer physiquement, il faut s'organiser un peu. Et puis l'autre chose, c'est que ça demande aux éditrices et éditeurs d'être des personnages double face qui sont à la fois l'éditeur que j'aimerais être un jour, c'est quelqu'un qui est à la fois très bon sur les textes et très bon sur le commerce. Un éditeur qui vous dirait moi je ne fais que du texte n'est pas un bon éditeur, et un éditeur qui vous dirait qu'il n'est que dans le commerce n'est pas un bon éditeur non plus. Il faut réussir à faire les deux avec cette idée qu'être éditeur, c'est trouver des lecteurs pour des textes. Certains vont dire qu'il faut en trouver beaucoup, d'autres vont dire qu'il faut trouver les bons, ou il faut trouver juste assez de lecteurs pour gagner juste assez d'argent pour continuer à faire des livres. Voilà, c'est toute cette petite équation. Mais
L'équation qu'on retrouve pour la librairie d'ailleurs, enfin, sous une forme adaptée, mais...
Oui, c'est ça. C'est que finalement, on parle de chaîne du livre. Éditeurs et libraires sont juste des maillons qui lient deux pôles qui sont les autrices, les auteurs, les lectrices, les lecteurs. Et nous, on a juste comme mission chacun d'aider un peu les auteurs, d'aider un peu les lecteurs et voilà. On est juste au service des deux. Alors, sauf qu'effectivement, économiquement, la seule personne qui paye, c'est le lecteur et la lectrice. Voilà. C'est ça qui définit économiquement tous les modèles économiques de l'édition, qui sont, quand on parle vraiment d'édition, c'est que c'est le lecteur ou la lectrice qui paye.
Alors, tu évoquais tout à l'heure donc dans les gènes de la maison de Forge de Vulcain, donc son ancrage en tout cas psychologique et idéologique dans l'université, la recherche et donc dans les sciences humaines, philosophie en particulier. Et donc, du coup, un œil aiguisé, évidemment, et orienté sur, dans ce vaste patrimoine littéraire et de sciences humaines, les choses qui, justement, ont été un petit peu laissées de côté et méritent qu'on s'y réintéresse de façon forte. Donc, on a parlé de ça. Je me demandais, en revanche, parce que ça semble, vu de loin, être totalement différent quand il s'agit de création française contemporaine, même si on enlève cette fois la connotation d'expérimentation formelle qui est parfois attachée à la notion création contemporaine. Là, on a bien dit tout à l'heure que ce n'est pas de ça dont il retourne en fait, aux Forges de Vulcain, ce qui ne veut pas dire que la forme n'est pas un souci, bien entendu, important. Mais je me demandais donc, parce que ça ne faisait pas partie nécessairement des gènes préalables des Forges de Vulcain, des tiens, de ceux de tes collaborateurs et amis, comment en fait est venu ce fait de de trouver des textes en fait de créateurs ou de créatrices contemporains, d'auteurs éventuellement débutants. C'est parce que là, il y a quand même quelque chose d'un peu mystérieux.
Non, alors en fait, c'est parce que vraiment, on était. C'est tout simple, on avait des emplois qui étaient liés à nos facultés, donc on était des enseignants du secondaire ou du supérieur, et on avait par goût une passion pour le théâtre, mais le théâtre comme exercice collectif, comme exercice physique, comme rencontre avec le théâtre populaire, donc on faisait des tournées loin de chez nous, voilà, et on jouait souvent pas sur des scènes de théâtre, dans des préaux, et voilà. Et donc on avait ce double intérêt. Après, je pense que on peut faire une sorte de psychologie du philosophe comme étant réparti en deux groupes, ceux qui aiment bien revenir aux choses parce que on ne peut construire un raisonnement que si on revient aux choses, et ceux qui sont en permanence à un très haut niveau d'abstraction. Et je pense que nous, on était plutôt souvent d'inspiration un peu empiriste, donc on revenait toujours aux choses, et on avait ce besoin de théâtre comme un besoin physique d'être dans des corps épanouis, voilà. Ça a l'air vraiment étrange, là, ce que je dis. Mais donc, il y avait ça. Alors, et par exemple, notre manière, enfin, ma manière, parce que c'est moi qui m'occupe principalement de la fiction, de faire de la fiction romanesque, est très marquée par cette expérience de théâtre, parce que la manière dont on travaillait quand on faisait de la création théâtrale, c'est que souvent, le metteur en scène, donc c'était Camille Combe-Lafitte, avait des idées, des vagues idées, et nous faisait improviser. Et nous faisait improviser vraiment très très longtemps, des jours et des jours, des scènes courtes, on filmait tout, puis on écrivait après. Donc on improvisait, puis on transcrivait pour arriver à un texte, et une fois qu'on avait le texte, on l'exécutait comme un vrai texte de théâtre, c'est-à-dire on n'improvisait plus en représentation devant les gens. Et en fait, c'est vrai que moi, quand je choisis un roman, dans les manuscrits, mais ça permet de parler d'un point, parce que tu parlais tout à l'heure que c'était intéressant de faire découvrir le concret du métier d'éditeur, et je pense que dans l'édition, il y a beaucoup de mythes, ça fait beaucoup de mal à l'édition, mais le réel est plus intéressant que le mythe, c'est qu'on pense souvent qu'une grosse partie du travail des éditeurs, c'est d'attendre dans la boîte aux manuscrits le texte parfait. Et en fait, il est rare que les textes qu'on publie soient identiques à ceux qu'on a reçus. Il y a toujours un travail de transformation avec l'autrice ou l'auteur. Mais au Forge, on fait les choses vraiment beaucoup plus en amont, c'est-à-dire que parfois, je suis allé chercher des gens dont ils avaient écrit des nouvelles, et je trouvais que les nouvelles étaient belles, et j'aurais dit, faut écrire un roman sur ce sujet-là. Ou je suis allé chercher quelqu'un qui écrivait des romans dans une catégorie et je lui ai dit, c'est pas comme ça que... Enfin, ça fonctionne pas, mais en fait, il y a quelque chose que tu devrais aller dans ce sens-là. Et voilà. Et ou parfois, je reçois des manuscrits et en fait, en travaillant avec l'auteur, 90% du manuscrit est transformé. Mais c'est l'auteur qui le fait, c'est pas moi. Moi, j'écris pas, je leur dis pas précisément quoi écrire, et voilà. Ou il y a des fois où c'est des gens qui sont dans d'autres pratiques artistiques et où je leur dis, mais le jour où t'écriras un roman, je sais que ça sera un bon roman, parce que la manière dont les gens se comportent et créent dans d'autres disciplines artistiques, c'est aussi révélateur de la manière dont ils vont écrire des romans. Donc, mais pour donner des exemples, hein, c'est-à-dire Thomas Spock, qui est l'auteur d'un roman qui s'appelle Uther Pendragon, qui est une contribution à la littérature arthurienne. C'est un auteur que j'ai rencontré 7 ans avant qu'il passe au roman. Et avant de passer au roman, c'était un auteur de nouvelles, de poèmes, d'articles critiques. Franck Thomas, c'est quelqu'un dont j'avais lu des scripts, simplement, parce qu'il est scénariste de profession. Je lui ai dit, il a fallu attendre 7 ans. Adrien Pochet, c'est un producteur et scénariste, et je lui ai dit un jour, s'il a envie de transformer ses scénarios en roman, ça m'intéresserait. Marie-Fleur Albecker, elle avait écrit plusieurs romans qui étaient une sorte des romances sarcastiques, qui étaient intéressantes, mais je pense qu'elle n'était pas au plein de son art, et donc j'ai lui poussé un peu vers une forme de roman historique. Et après, alors, c'est ça, il y a...
C'est une très belle réussite. Hein,
oui, et J'abattrai l'arrogance des tyrans, publié à l'automne dernier. En fait, pour prendre une image qui est une image de Patrice Chéreau, donc l'homme de théâtre, c'est Patrice Chéreau disait souvent que la création, c'est comme si on avait devant soi une sorte de fiole opaque dans laquelle il y a une couleur qu'on ne connaît pas. Par contre, dans la main, on a une petite fiole avec une couleur qu'on connaît. Et l'objectif, c'est de mettre la couleur qu'on connaît dans la fiole et il y aura une troisième couleur. Voilà. Et on ne peut pas savoir à l'avance quelle couleur ce sera. Marie-Fleur Albecker, par exemple, je savais en fait qu'elle était historienne, qu'elle était géographe, qu'elle vient d'une famille protestante. Et moi, j'étais intéressé par l'histoire de John Ball, qui est une histoire qui a aussi une histoire vraie, qui s'est passée au XIVe siècle et qui a déjà été racontée par William Morris. Et je lui avais dit, mais on pourrait peut-être, tu pourrais peut-être écrire là-dessus. Et je pensais qu'elle ferait quelque chose d'héroïque, épique, lyrique, individualisé, et voilà. Et elle est revenue avec quelque chose de complètement différent. Donc, ce qui est brechtien, pluriel, construit, inspiré de Wuming, enfin voilà, qui n'était pas du tout ce que j'avais en tête, mais qui était nettement mieux que ce que j'avais en tête.
Et résonnant par anticipation, comme d'ailleurs le très court texte d'Éric Vuillard qui est paru quelques semaines plus tard, en fait, avec des événements tout à fait d'actualité. À propos de révolte en fait populaire et de prise de la rue, enfin de la campagne là plus exactement dans le cas de Marie-Fleur Albecker. Mais c'est vrai que c'est fascinant, enfin cette façon de s'emparer de l'histoire, tout ce qui est le plus authentique et documenté, et puis de la faire vivre, enfin et d'en faire toute autre chose.
En fait, j'ignorais complètement, mais c'est sans doute un manque de curiosité, c'est que en fait les beaucoup d'historiens s'interrogent beaucoup sur le roman historique. Ils disent que c'est très étrange de voir que la manière dont on écrit l'histoire d'un point de vue universitaire a beaucoup évolué, mais la manière dont on écrit des romans historiques n'a pas beaucoup évolué. On écrit encore des romans historiques qui sont souvent des romans des puissants, c'est-à-dire un petit nombre de personnages change l'histoire. Alors on voit bien comment pour un lecteur c'est un peu exaltant parce que ça par l'identification ça donne à chacun l'impression qu'il peut changer le cours de l'histoire. Sauf que en fait, si on veut être réaliste, on se rend compte que, effectivement, enfin, l'évolution historique, c'est toujours le croisement entre des forces individuelles et des forces collectives, des mouvements sociaux, des mouvements idéologiques. Enfin, voilà, c'est plurifactoriel. Et rendre le côté plurifactoriel dans la fiction, c'est compliqué parce que nos attentes perceptives, surtout par exemple, je pense que le cinéma et les séries télé renforcent ça, sont des attentes perceptives où un petit nombre d'individus, voire un individu tout seul, par son odyssée personnelle de la transformation, peut transformer le monde extérieur. Et sauf qu'en fait, c'est assez rare que le monde bouge comme ça, quand même.
Voilà, donc, bah, je suis très heureux que tu profites en fait, de ce moment pour rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs qu'effectivement, parmi les mythes qui courent sur le métier d'édition, il y a effectivement dans cet aspect de la gestion des manuscrits, ce n'est pas effectivement une simple attente. Ce n'est pas non plus, comme ça se dit tant, surtout par les autrices ou les auteurs qui voient leurs manuscrits, leurs tapuscrits rejetés, que c'est que du copinage et que si on ne connaît pas les gens, en fait, je crois que, tu le disais, il y a d'une part une attitude très active en fait, de la part, en tout cas, de certains éditeurs dont tu fais partie, qui est de créer, en fait, de co-créer l'opportunité d'un tapuscrit, effectivement, en ayant une démarche volontariste. Et puis, il y a aussi ces miracles, je crois, qui existent, de recevoir des tapuscrits par la poste, où il y a des choses extrêmement intéressantes qui demanderont éventuellement du travail.
Non, mais par exemple, récemment, j'ai reçu... alors, c'est particulier, c'est un auteur qui s'appelle Jean-Luc Dachano, qui est aussi éditeur aux éditions de L'Œil d'Or. Il y a des années, j'avais vu représenter sur scène une de ses nouvelles. J'avais trouvé ça très, très frappant et j'étais allé le voir en lui disant « Le jour où tu écris un roman, tu me tiens au courant. » Et des années après, il m'a envoyé son premier roman. Et ce qui était très délicat, c'est que c'était un roman assez volumineux et qui avait été pensé pendant 12 ans. Et en plus, c'est un auteur, en fait, il l'a écrit pendant 12 ans, mais c'est un auteur, il y a réfléchi 30 ans. C'est vraiment la somme de... C'est ce qu'il ne faut jamais faire dans un premier roman, c'est-à-dire c'est la somme d'une vie. Parce que souvent, il faut se dire, OK, je vais écrire un premier roman, mais après, j'en écris un deuxième, un troisième, et puis je vais petit à petit grandir esthétiquement. Là, je pense qu'il a vraiment donné beaucoup, beaucoup dès le premier. Et en fait, j'ai passé des mois à triturer le manuscrit en me disant « Ah, qu'est-ce qu'on peut couper ?» Et voilà. Alors d'une part, je pense que c'était une erreur de ma part, parce que se dire qu'il faut couper absolument, c'était pas mû par des raisons esthétiques, c'était juste se dire quand c'est trop long, oh là là, les libraires, les lecteurs, ils vont avoir peur et tout ça. Donc c'était un mauvais instinct, heureusement que j'ai pas suivi cet instinct. Et l'autre chose aussi, c'est que pour le coup, à un moment, il faut aussi avoir l'humilité de se dire que on n'a pas, l'éditeur n'a pas obligatoirement à manifester sa patte par son intervention. Donc par exemple, le roman de Jean-Luc Dachano, qui s'appelle « Souviens-toi des monstres », c'est sans doute un des romans sur lesquels je suis le moins intervenu. C'est-à-dire je suis intervenu sur des petites chevilles, des petites coupes à cet endroit, mais très précises, des petits endroits où il y a des rappels pour qu'on ne perde pas l'histoire, ce type de choses. Mais sinon, globalement, c'est un roman sur lequel mon intervention a été très, très limite. Il y a eu une période assez longue de réflexion, d'interrogation, et puis finalement, une sorte de révélation. Alors la révélation est venue de manière très simple, parce que en fait, ce qui est bien dans l'édition, enfin comme dans d'autres métiers sans doute, c'est qu'on continue à apprendre. Et sur les deux dernières années, je me suis rendu compte que on avait peut-être un tout petit peu tendance dans l'édition à courir derrière d'autres formes de fiction qui commencent à être dominantes médiatiquement, comme les séries télé. Et on cherche parfois des romans qui se disent « en fait, il faut du narratif ». Parce que les séries télé sont narratives, parce que narratif, c'est le moyen de toucher le plus grand nombre. Et donc, il faut uniquement du narratif. Et donc, on a tendance à dissocier le fond et la forme, c'est-à-dire faire de la forme extrêmement entraînante, des choses, des page-turners, des choses comme ça, des trucs très scénarisés à la hollywoodienne. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, un scénario hollywoodien, c'est une forme narrative qui peut très bien marcher, mais qui induit un fond particulier. C'est-à-dire, de cette forme remontent toujours les mêmes fonds, et la forme hollywoodienne, c'est l'odyssée de la transformation. C'est-à-dire, c'est les étapes du héros, et voilà. Et en fait, ce qui m'a frappé avec Jean-Luc Dachano, donc son roman, Souviens-toi des monstres, c'est un roman qui raconte la naissance dans une Italie fantasmagorique de Siamois, c'est que, en fait, c'est un roman sur les monstres, sur la difficulté de raconter les monstres, sur toutes les formes de monstruosité, la monstruosité physique, la monstruosité morale, l'extravagance, l'excès, la passion, la générosité, la folie, sur tout ça. Et qu'il fallait, comme le fond c'était ça, il fallait qu'il y ait une forme monstrueuse. C'est-à-dire, en fait, quand il y a une dissociation fond-forme, il y a un mensonge et une schizophrénie. Souvent, c'est complètement involontaire. Mais si vous faites une odyssée de la transformation à l'américaine, c'est-à-dire un scénario hollywoodien, mais qui raconte quelque chose de collectif, en fait, vous ratez quelque chose. Je vous donne un exemple très simple, dans un film qui n'est pas très bon, mais dont j'aurais bien aimé qu'il soit bon, c'est Kingdom of Heaven de Ridley Scott, qui raconte quelque chose d'assez beau, parce que c'est le dilemme. Alors, Kingdom of Heaven, c'est la chute de Jérusalem. Lors des croisades, j'allais dire le numéro de la croisade, mais là, c'est vraiment pas ma spécialité. Et dans Kingdom of Heaven, donc Orlando Bloom joue un chevalier qui va tenter de sauver Jérusalem. Et il y a cette idée, il y a un conflit entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'idéal chrétien et puis le monde chrétien tel qu'il est physiquement, économiquement. Et peut-être que pour sauver l'un, bah, il faut abandonner l'autre. Et voilà. Et dans Kingdom of Heaven, il y a quand même cette idée les chevaliers interviennent, mais les chevaliers ne sont rien s'il n'y a pas le peuple avec eux d'une certaine façon, et voilà. Et ils essayent de rendre ça par une scène qui est limite kitsch et cul dans le film, mais qui est un peu où en fait le chevalier va essayer de faire chevalier tous les habitants de Jérusalem. Et c'est une tentative, mais en fait, on sent qu'il rentre dans c'est la limite du scénario hollywoodien, c'est que ça ne fonctionne pas complètement, parce que tout simplement, ce qui est censé être l'odyssée collective des survivants de Jérusalem, en fait, non, c'est juste l'odyssée de ce chevalier. D'ailleurs, le film, à la fin, c'est son retour en France, dans une vie où il se dit « Ah, j'ai vécu des aventures avant. » Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'ils font des romans font forme. Ça, c'est ce que j'ai appris sur les dernières années. Il faut que le fond reflète la forme et la forme exprime le fond. Et voilà. Et donc, Jean-Luc Dachano, son dernier roman, « Souviens-toi des monstres », c'est un roman monstrueux, parce que ça a une puissance expressive. Et je pense qu'une des difficultés des séries télé actuellement, c'est qu'elles sont contraintes par la forme qui limite le fond qu'elles peuvent montrer. Et quand elles cherchent à montrer d'autres fonds, ce qu'elles font, parce qu'il y a des grands scénaristes, et voilà, et ben, elles ont du mal parce qu'elles sont souvent dans la dissociation. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une sorte de puissance expressive du roman qu'il ne faut pas abandonner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas courir derrière la série télé parce que le roman a une puissance, la lecture de manière générale a une puissance qui lui est propre Et voilà. Non, mais parce que en fait, moi, j'ai beaucoup regardé de séries télé. J'ai atteint un certain niveau de saturation. Et je suis un peu étonné parfois quand je vois autant de lecteurs, d'éditeurs, de critiques littéraires qu'ont basculé, c'est-à-dire ils lisent plus ou très peu, ils regardent tout le temps des séries télé. Voilà.
Alors qu'en lisant beaucoup de romans, on s'aperçoit qu'on n'atteint jamais ce niveau de saturation. La puissance, la vitalité et le renouvellement possible et l'éclectisme effectivement du lien forme-fond du roman, je suis entièrement d'accord, et sans commune mesure avec ce que permet la série télévisée de masse contemporaine, y compris avec le caractère totalement brillant de certains scénarios et des équipes de scénaristes qui travaillent. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Auforge de Vulcain fait vraiment partie des maisons qui aujourd'hui démontrent, mois après mois, trimestre après trimestre, la puissance de la littérature. Et cette puissance, on en parlait tout au début, qui n'est pas une puissance au service de quelques intellectuels éclairés qui seraient seuls à même en fait, de goûter la bonne littérature, mais qui est bien de l'élitisme de masse, des selon le cœur de l'âche, L-A-S-C-H, hein, et non et sans accent circonflexe, bien entendu, et qu'on remercie évidemment énormément les Forges de Vulcain, dont tous les ouvrages, ou presque, sont disponibles chez Carib, donc chez Ground Control en permanence. Et on atteint à peu près le temps qu'on s'était fixé, donc merci beaucoup David Meulemans, et on va finir avec un nouvel hommage en fait à des dieux du feu, avec un métal un peu plus extrême que Manowar.
Yeah!
Grande Fleur Café. Hugues Robert.
Grande Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines. Maybe it's time to podcast, then net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.